OK, donc on est ce soir, on va la semaine prochaine, ça va être la journée de Noël, puis la semaine après, ça va être le jour de l'an, c'est-à-dire qu'on va prendre un break pour les 2 semaines. Ensuite de ça, on va revenir le 8 janvier. D'ici à là, on va faire ce soir. On commence ce soir la fête des trompettes. On avait fini l'intervalle qu'on avait vu les dernières semaines, la période entre la fête de la Pentecôte et la fête des trompettes. Maintenant, on arrive à la fête des trompettes. C'est qu'on va lire à ce point-ci, l'Église est enlevée à la fin de la période qu'on avait vue avant. L'Église est enlevée. Ensuite, le Seigneur recommence avec son peuple terrestre. Il reprend avec son peuple terrestre, mais les 3 dernières fêtes les concernent directement. Mais même si on peut quand même faire une application point de vue spirituel pour le temps de l'Église, mais ces 3 fêtes-là, la fête des trompettes, le jour des expiations et la fête des tabernacles concernent le peuple d'Israël à la fin. Puis c'est ça qu'on va regarder ensemble. Mais Dieu a préservé Israël à travers les âges, à travers les 2000 ans d'histoire où il les a donné un aveuglement comme un jugement, parce qu'ils ont rejeté le Messie, mais maintenant, il va revenir avec eux, il les a préservés à travers les 2000 ans, puis il va revenir avec eux. Mais on va lire premièrement dans le Lévitique au chapitre 23. Lévitique au chapitre 23, les versets 23 et 25, on avait déjà lu la dernière fois le verset 23 pour nous montrer que c'est le commencement, ça concerne la fête des trompettes à la fin de l'intervalle entre les deux. Du 3e mois jusqu'au 7e mois. Au verset 23 de Lévitique, au chapitre 23, il nous dit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël et dit: Le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. On va aller maintenant dans Ézéchiel. On va lire aussi dans Ézéchiel, parce que Ézéchiel nous parle dans sa prophétie de ce jour-là. Et quand il va appeler les trompettes, c'est pour appeler, pour rassembler Israël. Donc, au chapitre 37, on va lire tout le chapitre qui va nous concerner par rapport à cet événement-là. Il nous dit au verset 1, La main de l'Éternel fut sur moi, c'est Ézéchiel, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, l'Éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Rapproche-les l'une de l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elles soient unies dans ta main. Et lorsque les enfants de ton peuple te diront, ne nous expliqueras-tu pas ce que cela signifie? Réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois, en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras seront dans ta main sous leurs yeux. Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi et ne formeront plus deux nations et ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu, et ils auront tous un seul. Attendez, ils seront mon peuple, je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai, et je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple, et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Le Seigneur vous bénir. La lecture de sa parole ensemble ce soir. Donc, on voit ici, c'est, comme on a dit, c'est la restauration d'Israël. Puis, la restauration d'Israël, c'est un des plus grands miracles que le Seigneur va faire. Parce que c'est quelque chose, quand on pense à ça, on parle à la vallée des, on pense à la vallée des ossements, là, les ossements secs, puis qui reviennent à la vie, là. C'est tout un grand miracle quand le Seigneur va restaurer Israël. Puis, mais il y a beaucoup de gens qui sont incrédules parce que c'est sûr que la puissance de Dieu, dans la puissance de Dieu, c'est quelque chose qui nous dépasse, là. Puis il y a bien des choses que le Seigneur fait, comme on pense au déluge. Il y a des gens qui sont incrédules, qui ne croient pas au déluge. Il y a des gens qui ne croient pas à la création. C'est des grandes choses que le Seigneur a faites par sa puissance. Sa puissance, il est tout puissant. Donc, même pour Israël, pour restaurer Israël, c'est encore un grand miracle. C'est un grand miracle que le Seigneur va faire. Puis il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à la puissance de Dieu pour la restauration d'Israël. Puis même parmi les évangéliques, il y a des gens qui ne croient pas que Dieu va revenir pour restaurer Israël. Puis il y a même des systèmes théologiques qui n'ont pas de place pour Israël à la fin des temps. On pense à comme la théologie du remplacement, c'est que la théologie du remplacement, c'est que on a mis Israël de côté, puis toutes les bénédictions qui concernent Israël sont données à l'Église, on les prend pour l'Église. Mais c'est drôle que les malédictions, on les prend pas, on prend juste les bénédictions, mais on sait qu'il va en passer un temps de grande souffrance, mais le Seigneur va les restaurer. Puis, mais ceux qui transfèrent les promesses. C'est pour ça qu'il faut discerner dans la parole de Dieu ce qui est dit à l'Église, ce qui est dit à Israël, puis ce qui est dit aux nations. C'est pas toute la même chose. C'est des choses différentes. Le Seigneur agit différemment avec chacun. Mais aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Dieu va rassembler Israël un jour, puis il va rassembler même, puis ça c'est quelque chose quand on pense à ça. Il va rassembler même Éphraïm, qui était le royaume du nord, qui avec les 10 tribus, et il va restaurer aussi avec Juda, qui était le royaume du sud, qui était avec deux tribus ennemies, qui étaient, Dieu va les rassembler ensemble. Puis beaucoup de gens ils vont nous dire aujourd'hui, le royaume du Nord a disparu parce qu'ils ont été mêlés avec les autres nations. Mais même dans le Nouveau Testament, on voit des gens qui étaient de toutes les tribus d'Israël. On voit comme Anne, la prophétesse, qui était de la tribu d'Aser. Puis on voit qu'il y a des gens qui étaient des autres tribus, mais qui s'étaient joints à Juda. Mais le Seigneur va ramener les Israélites, il va les Juifs, il va les mettre ensemble, il va les ramener ensemble, comme on a lu dans le chapitre 37 d'Ézéchiel et au verset 19. Regardez qu'est-ce qu'il avait dit ici au verset 19. Il nous avait dit, réponds-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai le bois de Joseph qui est dans la main d'Éphraïm et les tribus d'Israël qui lui sont associées. Je les joindrai au bois de Juda et j'en formerai un seul bois en sorte qu'il ne soit qu'un dans ma main. Donc le Seigneur va les restaurer, il va les remettre ensemble comme c'est par sa puissance qu'il va faire ça. Puis il va former un seul peuple, il va leur donner le fils de David. C'est le Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le grand-fils de David qui va régner maintenant. Il va leur donner le royaume. Donc, on voit qu'il va les appeler, il va les ramener. Ça, c'est la fête des trompettes. Il va les restaurer à lui-même. Ça, c'est le jour des expiations. Il va leur donner le royaume avec leur roi, le fils de David, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la fête des tabernacles. Mais on sait que ils ont été dispersés à cause de leur péché, à cause de leur idolâtrie, à cause du fait qu'ils ont désobéi, se sont éloignés de Dieu, donc ils ont été dispersés à travers le monde, parce qu'il y a des Juifs partout, hein. Il y a des Juifs qui ont été dispersés après, dans les années 70, le temple a été détruit, les Juifs ont été dispersés, mais c'est une chose vraiment remarquable. Qu'ils ont demeuré, ils ont gardé leur identité. Même étant, ça c'est un miracle du Seigneur qu'ils ont gardé, on a parlé la dernière fois, qu'ils ont gardé leur identité, même étant dispersés à travers le monde, ils ont gardé leur identité. Mais c'est comme quand ils étaient en Égypte, puis Moïse, quand il y a eu la vision du buisson ardent, le buisson qui était en feu, puis ne se consumait pas, on sait qu'un buisson, c'est quelque chose qui est sec puis qui est facilement inflammable. Ça brûle de rien, un buisson. Mais quand Moïse voyait le buisson qui était en feu, mais il ne se consumait pas, puis Moïse, il s'est détourné pour voir comment ça se fait que le buisson ne se consumait pas. C'est un miracle, mais c'est parce que le Seigneur était au milieu du buisson, il lui parlait du milieu du buisson, puis ça représentait que même l'Égypte, qui ont voulu détruire, qui ont essayé de détruire le peuple d'Israël, ils n'ont pas réussi parce que Dieu était au milieu d'eux. Puis il les a délivrés, il les a fait sortir d'Égypte. Puis encore une fois, là maintenant, il les préserve, sont pas consumés. Puis on sait qu'il y a beaucoup de haine contre les Juifs même. Là, on voit maintenant, à cause de la guerre, on voit que les nations même, ils commencent à se tourner contre Israël. Mais Dieu va les préserver. Il les a préservés jusqu'à maintenant. Il va les préserver encore. Puis il va les ramener en Israël. Puis parce que les prophéties qui les concernent vont pouvoir s'accomplir. Donc c'est un grand miracle de Dieu même de les avoir préservés. C'est un grand miracle quand il va les ramener et qu'il va les restaurer. Mais c'est aussi un grand miracle de les avoir préservés à travers les siècles, pour qu'ils gardent leur identité. Puis de la même façon vous savez, le Seigneur fait les choses d'une façon pour montrer sa puissance. Comme il a préservé sa parole à travers les âges, on sait aussi qu'il y a eu une haine contre la parole de Dieu. On a voulu la détruire, l'anéantir. Puis c'est remarquable que la parole de Dieu, comme le peuple d'Israël était dans un état de faiblesse et un état vulnérable, comme la parole de Dieu était dans un état vulnérable, puis on a voulu la brûler, on a voulu la détruire complètement, mais on n'a pas réussi. On n'a pas réussi, Dieu l'a préservé. C'est la même chose avec Israël. Mais c'est sûr qu'on pense Dieu aurait pu faire en sorte qu'elle soit intouchable. Mais même, c'est comme le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, on a voulu le détruire aussi. Puis il était dans une forme humaine. Il aurait pu, même quand il est allé à la croix, il aurait pu tout anéantir ceux qui étaient là. Mais dans son état, qui s'était mis dans un état comme un état de faiblesse, il a été, ils ont voulu le détruire, mais ils n'ont pas réussi. Puis tant que son heure n'était pas arrivée, ils n'ont pas pu mettre la main sur lui. Mais quand son heure est arrivée, il est allé lui-même. Il a pu dire, personne ne m'ôte la vie, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Eh bien, moi, je trouve ça extraordinaire, comme la parole de Dieu, comment elle était dans un état vraisemblablement de faiblesse, vulnérable. Le peuple d'Israël aussi était dans un état vulnérable. Puis le Seigneur Jésus aussi s'est mis dans un état vulnérable, quoiqu'il n'a jamais cessé d'être le Dieu Tout-Puissant qui soutenait tout par sa parole puissante, mais il a été préservé. Puis même quand il est allé dans la mort n'a pas pu le retenir parce qu'il est mort selon les Écritures, il a été enseveli, puis il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Donc tout ça nous montre la puissance de Dieu. Hein. C'est comme si Dieu veut montrer que même la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Puis mais il a fait ça. Donc, la puissance de Dieu va accomplir encore un grand miracle, puis il va revenir ramener les Juifs. La fête des trompettes, c'est le premier jour du septième mois, mais on sait que ça, c'est le premier mois de l'année civile en Israël. Et on avait dit, quand on a parlé de la fête de la Pâque, c'est que le jour du premier mois, le mois est devenu le premier mois, parce qu'on avait parlé dans la fête de la Pâque que ça représente la rédemption. Puis, dans la rédemption, on commence une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, dans la rédemption, c'est comme on commence une nouvelle vie. C'est ce qui nous est arrivé quand on a été sauvés. Puis Israël aussi, dans la Pâque, il commençait une nouvelle vie, une vie dans la rédemption. Puis c'est pour ça que le mois que la Pâque est fêtée était devenu le premier mois. Mais avant, dans l'année civile, c'était le septième mois qui était le premier mois de l'année. Mais parce que le mois de Nissan, qui est le mois de la Pâque, a pris la place, le mois de. Qui est venu ici, c'est le mois le septième mois est devenu le septième mois dans l'année. Donc, c'est ça. Le septième mois est compté à partir de la Pâque, qui lui est le premier mois, mais c'est ça. Là, maintenant, les trompettes. Les trompettes, eh bien, ça a une signification dans l'Écriture. Quand on regarde des choses de même, on sait que tous les endroits où sont mentionnées les trompettes, mais ça a une signification. Puis le sujet des trompettes, c'est en rapport avec le rassemblement. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, les trompettes sont toujours, le son de la trompette est un son qui rassemble, qui donne un rassemblement. On va aller dans Nombre au chapitre 10. Dans Nombre au chapitre 10 qui nous parle des trompettes, c'est dans Nombre au chapitre 10. On va voir l'utilisation des trompettes, puis je pense que c'est un peu le thème qui nous montre comment les trompettes sont pour le rassemblement. Voyez-vous, dans Nombre 10, on va lire les versets 1 à 10. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi deux trompettes d'argent. Ça, c'est à cause du peuple. Maintenant, on a un peuple, des millions qui sont dans le désert. Il dit, fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée. C'est le rassemblement, la convocation de l'assemblée, et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au Midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, Les sacrificateurs sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes, à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu, je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, on voit que les trompettes, c'était pour la convocation du peuple. Il y avait différentes façons de sonner des trompettes. Puis, vous savez, c'est un peu comme, il n'y avait pas d'intercom, il n'y avait pas de porte-voix dans le désert pour rassembler le peuple. Donc, c'était un moyen de communication. C'est important, Paul va nous en parler aussi dans 1 Corinthiens 14 par rapport à la langue. Il va nous parler des trompettes aussi. Puis c'est un moyen de communication. Puis c'est pour ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 14 que si par la langue, je n'émets pas un son distinct que les autres peuvent comprendre, mais il dit, vous parlerez en l'air. Puis il dit qu'il n'y a pas une langue dans le monde qui n'est pas sans signification. Parce que qu'est-ce que ça donnerait d'avoir une langue qui n'a pas de signification? La langue est un moyen de communiquer. Puis, s'il n'y a pas de communication, ce serait en vain. On voit que dans 1 Corinthiens 14, Paul, il parle, il corrige une situation, une mauvaise utilisation du don des langues qui était, c'était pas vraiment une langue, c'était des paroles en l'air qui n'étaient pas utiles pour le rassemblement de l'assemblée autour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit que dans le peuple, il n'y avait pas d'intercom. On utilisait les trompettes. La trompette a un son strident qui porte au loin. Puis, vu qu'il n'y avait pas d'intercom, ben, quand on communiquait le peuple avec les trompettes pour les rassembler, comme on a vu, soit pour aller à la guerre, soit pour partir dans leur marche, soit pour se rassembler à la tente d'assignation devant Moïse. Puis, parfois, c'était seulement les chefs. Donc, il y avait différentes façons de sonner des trompettes. Puis, quand quelqu'un du peuple entendait les trompettes, il pouvait comprendre le message des trompettes, la façon dont elles étaient sonnées. Vous savez, pour ceux qui ont vécu dans des petits villages auparavant avec les églises catholiques, on voit qu'il y avait des cloches. Puis, les cloches étaient la même chose dans un sens. Ils utilisaient des cloches pour convoquer ou pour annoncer, même dans les villages, même si on était éloigné de l'église, on entendait des cloches. Et quand on entendait les cloches, il y avait différentes façons de sonner les cloches. Ceux qui ont un certain âge, comme moi, ils vont se rappeler de ces choses-là. Quand on sonnait les cloches, quand c'était un mariage, c'était différent. C'était différent d'une funéraille. Une funéraille, c'était triste, c'était morne. Puis on savait que c'était une funéraille. Juste en entendant les cloches, on disait, ah, il y a une funéraille qui se passe. Si c'était un mariage, c'était beaucoup plus joyeux, puis allègre. Et on savait que c'était un mariage. Il y avait aussi les vêpes, les temps de prière, toutes ces choses-là. Donc, c'était un moyen de communiquer qu'on utilisait pour communiquer au peuple que ces choses-là qui se passaient. Donc, il y avait une communication. Dans Nombre, au chapitre 10, au verset 2 qu'on a lu, il dit, fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Donc, l'argent nous parle dans la parole de Dieu de la rédemption. Ce n'est pas par des choses périssables comme de l'argent et de l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Mais quand on a, dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'argent, on parle de la rédemption. L'argent est toujours en relation avec la rédemption. Donc, ce langage s'adresse à des gens qui sont rachetés. Les trompettes, quand on sonnait des trompettes dans le désert avec le peuple, c'était le peuple qui avait été racheté par l'agneau de la Pâque, qui avait été immolé, qui avait été racheté hors de l'Égypte. Et le langage des trompettes s'adressait à un peuple racheté. Dans 1 Corinthiens 14, 21, il dit, il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même, ainsi dit le Seigneur. Et vous, c'était rendu que ce peuple-là, qui était le peuple de Dieu, qui aurait dû comprendre le langage, eh bien, le Seigneur lui parlait avec des langues étrangères quand il a donné le don des langues à Acte 2. Et il leur parlait par des langues étrangères, puis ils ne comprenaient pas. Puis même le Seigneur Jésus, quand il a révélé des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde, des choses profondes dans les paraboles du royaume, puis eux, ils ne comprenaient pas. Mais il expliquait à ses disciples en particulier, mais il dit, pourquoi que tu leur, qu'ils ne peuvent pas comprendre? Mais ils disent, c'est parce que leur cœur est endurci, leurs yeux sont fermés, puis ils ne peuvent pas voir. Quoi que le Seigneur parle la langue, leur parlait des choses profondes, des choses qui étaient cachées depuis la fondation du monde. Puis nous qui sommes rachetés, on peut lire les paraboles du royaume, puis comprendre le plan de Dieu dans ces paraboles-là que le Seigneur, qui révélait des choses profondes, il les a révélées à ses disciples. Et moi, ces paraboles-là sont vraiment précieuses pour moi parce que c'est dans la parabole du semeur que j'ai pu comprendre l'Évangile. C'est à ce moment-là que je ne la comprenais pas avant, mais du moment que je l'ai compris, j'ai été sauvé. Parce que le Seigneur, c'est celui qui semait la parole. Puis moi, j'étais un des quatre terrains. J'ai réalisé ça et j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié d'être le bon terrain pour recevoir la parole. Puis à ce moment-là, j'ai compris l'Évangile par sa parole. Donc, les trompettes appelaient le peuple à se rassembler pour adorer, ou pour marcher, ou pour aller au combat. Donc, il y avait différentes façons de sonner des trompettes. Mais quand le peuple entendait les trompettes, eh bien, il savait exactement qu'est-ce qu'il devait faire. Il savait s'il devait se rassembler pour à la tente d'assignation, se rassembler à Moïse, qui était un type du Seigneur Jésus-Christ, ou s'ils devaient partir, enlever leur campement pour partir, ou s'ils devaient aller à la guerre. Donc, les trompettes leur communiquaient ce langage-là. Dans Nombre 10, au verset 2, il dit, elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Donc, il y a les deux façons ici. Puis, dans Nombre 10, au verset 3, il dit, quand on sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Donc, Moïse étant un type du Seigneur Jésus-Christ, les trompettes étaient pour que le peuple se rassemble autour de Moïse à la tente d'assignation. Et nous aussi, par la langue, c'est pour ça, comme on voit dans 1 Corinthiens 14, par la langue, on doit donner un message qui rassemble autour du Seigneur Jésus-Christ. C'est important que par la langue, on communique un rassemblement autour du Seigneur Jésus-Christ. Puis, dans Nombre 10, 4, il dit, si l'on sonne que d'une trompette, les princes, les chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Donc, on avait deux trompettes. Quand on sonnait les deux trompettes, c'était tout le peuple. Quand on sonnait seulement d'une trompette, c'était seulement les princes, les chefs de milliers qui se réunissaient auprès de Moïse. Donc, nous autres aussi, comme on a dit, de la même façon, quand on parle, ça doit être pour réunir, pour rassembler autour du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ainsi pour la marche ou pour aller à la guerre, dans Nombre au chapitre 10, les versets 5 à 6, il nous dit que pour la première fois qu'on sonnait avec éclat, donc ceux qui campaient à l'Orient devaient partir. Puis selon Nombre 2, deuxième chapitre de Nombre, les versets 3 à 9, on voit que ceux qui campaient à l'Orient, parce que Israël était organisé selon ce que Dieu avait donné des instructions. Premièrement, le tabernacle était campé au milieu. Premièrement, on mettait le tabernacle et toutes les tribus se campaient par rapport au tabernacle. Le tabernacle était toujours placé avec la porte en avant vers le voile en avant, vers l'Orient, comme le temple aussi. Le temple faisait face à l'Orient, la porte d'en avant faisait face vers l'Orient. Et à l'Orient, c'est-à-dire, on voyait qu'en avant, c'était les premiers, ceux qui étaient campés là, c'était Juda, avec la bannière de Juda, puis avec Juda étaient Issachar et Zabulon. On sait que Juda était le premier dans la marche, parce que Juda veut dire louange. Donc, c'est les combats étaient. On fonctionne toujours par c'est la louange à Dieu qui est en premier. Donc, Juda, il y avait avec eux Issachar et Zabulon, qui faisaient trois tribus, qui étaient campées en avant du tabernacle à l'Orient. La deuxième, puis quand on sonnait la première fois la trompette avec éclat, Juda se mettait en marche, se préparait pour partir à marcher. Et quand on sonnait la deuxième fois avec éclat, c'est ceux qui campent au midi. Ceux qui campent au midi, c'est-à-dire au sud, eh bien, ceux qui campaient à l'Orient, c'est l'est. Au midi, c'est le sud. Ça, c'était Ruben. La bannière de Ruben, avec Ruben, eh bien, il était Siméon et Gad. Donc, ça faisait trois autres tribus. C'était dans Nombre 2, verset 10 à 16, on voit ça. Ensuite de ça, quand ceux qui étaient campés à l'Orient partaient, ceux qui étaient campés au Midi partaient, après cela, c'était la tente d'assignation avec les Lévites, qu'on voit dans Nombre 2 au verset 17. Donc, chacun, il y avait les trois familles des Lévites, les quatre familles avec Aaron et ses fils, qui démantelaient le tabernacle et qui, eux, suivaient les deux premières bannières, c'est-à-dire la bannière de Juda avec les deux autres tribus, la bannière de Ruben avec les deux autres tribus. Ensuite, quand le tabernacle avec les fils de Lévi partait, eh bien, après ça, la troisième fois qu'on sonnait de la trompette avec éclat, eh bien, c'est ceux qui campaient à l'Occident. Ça, c'était Éphraïm, la bannière d'Éphraïm. À l'Occident, c'est à l'arrière du tabernacle, comme le temple. On sait que le mur de l'Ouest en Israël, où les Juifs se rassemblent pour prier, eh bien, c'est à l'ouest du temple. Et à l'ouest était Éphraïm, la bannière d'Éphraïm. Avec Éphraïm étaient Manassé et Benjamin, selon Nombre 2, versets 18 à 24. La quatrième fois qu'on sonnait de la trompette avec éclat, c'était ceux qui campent au nord. Donc, c'était du côté nord du tabernacle où c'était la tribu de Dan. La tribu de Dan, c'était la bannière de Dan avec la tribu d'Aser et Naphtali qui étaient avec eux. Donc, on savait, quand on sonnait de la trompette avec éclat, une première fois, Juda savait avec sa bannière et les deux autres tribus, la deuxième fois avec. Je me suis trompé, c'est la quatrième fois, puis cinquième fois, l'Orient, l'Occident et le Nord qui devaient partir, parce que la troisième fois, c'était les Lévites qui devaient partir avec le tabernacle. Puis ensuite de ça, ils se mettaient en marche pour prendre leur pèlerinage. Ceux qui sonnaient des trompettes, eh bien, c'était des sacrificateurs, c'était des prêtres. Dans Nombre 10, au verset 8, il nous dit que, attendez un petit peu, il dit, lorsque les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes, ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Donc, c'était les prêtres qui devaient sonner des trompettes. Puis, dans le Nouveau Testament, c'est des croyants, parce que tous les croyants sont des prêtres, sont des sacrificateurs. On parle du sacerdoce de tous les croyants, ce qui est, dans ce sens, dans le Nouveau Testament, on n'est pas divisé entre un clergé puis des laïcs. On est tous des prêtres. Tous sont des sacrificateurs pour Dieu pour offrir différents sacrifices, des sacrifices spirituels qu'on offre à Dieu, qui est une adoration. Donc, dans le Nouveau Testament, on voit qu'on parle du sacerdoce de tous les croyants. Un sacerdoce, le Seigneur Jésus, lui, a un sacerdoce qui n'est pas transmissible parce que dans l'Ancien Testament, le souverain sacrificateur devait être remplacé, puis les sacrificateurs devaient être remplacés parce qu'ils ne vivaient pas éternellement. Mais le Seigneur Jésus, lui, parce qu'il vit éternellement, n'a pas besoin d'être remplacé. Mais il nous a fait, nous, un royaume de sacrificateurs. On dit des fois des rois et des sacrificateurs, mais c'est un royaume de sacrificateurs. On va aller dans 1 Pierre 2, qui nous parle de. Il y a deux classes de prêtres ici, qui dans 1 Pierre 2, verset 4 à 5. 1 Pierre 2, verset 4 à 5. Voyez-vous, il nous dit ici, aussi, Je suis dans 1 Pierre 4, excusez-moi. 1 Pierre 2, 4 à 5, il nous dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc, il nous parle qu'on est un saint sacerdoce, c'est-à-dire que un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles à Dieu. Donc, en tant que sacrificateur, dans le saint sacerdoce, on officie à Dieu. On sert Dieu, on est dans la maison de Dieu pour servir Dieu, premièrement, offrir des sacrifices de louange au Seigneur, le fruit des lèvres qui confessent son nom et d'autres sacrifices aussi. Mais il nous dit on est un saint sacerdoce. Saint, c'est mis à part, sanctifié pour le service de Dieu. On avait dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres qui officiaient directement à Dieu, mais aussi il y avait des prêtres qui officiaient envers le peuple. Puis on voit ça dans le verset 9. Il dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Donc on parle des rois, des sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Puis là, regardez la fonction, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, on est ici sur la terre pour aussi, en tant qu'un sacerdoce royal, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Donc, annoncer au monde les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc, c'est des fonctions de sacrificateur. On voit dans Apocalypse aussi, dans chapitre 1, verset, peut-être aller dans Apocalypse, au chapitre 1, verset 5, la fin du verset 5 et le verset 6. Apocalypse 1, verset 5, la fin, il dit, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, on est, si ceux qui devaient sonner les trompettes devaient être des sacrificateurs ou des prêtres, eh bien, nous aussi, on doit utiliser la langue pour que Paul nous fait mention, nous compare le langage dans 1 Corinthiens 14 au son de la trompette. Donc, on doit utiliser la langue pour rassembler au Seigneur comme la trompette. Donc, il devait sonner dans les combats, il devait sonner pour rassembler autour d'autres endroits aussi, rassembler autour du Seigneur pour aller à la guerre. Nombre 10, au verset 9, regardez qu'est-ce qu'il dit. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, vous serez délivrés de vos ennemis. Donc, on a un combat, nous aussi, un combat spirituel, puis il devait sonner des trompettes pour appeler, convoquer le peuple, rassembler le peuple pour aller au combat. Puis nous aussi, quand on utilise la langue dans l'assemblée, c'est pour nous rassembler pour le combat spirituel qu'on a à combattre. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres, les dominations dans les lieux célestes. Et c'est pour ça qu'on a des armes spirituelles. Donc, c'est l'exhortation qu'on a dans le Nouveau Testament d'utiliser la langue. Mais eux, quand ils sonnaient, il y avait une façon de sonner des trompettes qui leur disait qu'il fallait qu'ils se préparent pour aller combattre les ennemis, pour aller à la guerre, puis vaincre sur leurs ennemis. Mais aussi, dans leurs jours de réjouissance, à leurs fêtes et aux nouvelles lunes, et pour leurs sacrifices, ils devaient sonner des trompettes aussi au verset 10 de Nombre 10. Il dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, on doit maintenant aussi pour l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose qui se perd aussi, mais le langage, la langue est utilisée pour rassembler, pour nous rassembler pour l'adoration du Seigneur. On sait que, comme on a dit, quand on parle de trompette, on retrouve des trompettes à différents endroits dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Puis la signification, c'est pour ça que les choses qu'on retrouve, ça donne, la parole de Dieu leur donne une signification, la signification continue dans le reste de la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on va se référer pour comparer tous les passages qui parlent d'un sujet comme ici, qui parle des trompettes. Puis le thème des trompettes, comme dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, représente le rassemblement. On le voit dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, pour le rassemblement des croyants, de l'Église qui va être enlevée à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Donc, 1 Thessaloniciens, au chapitre 4, il nous parle de la trompette encore. 1 Thessaloniciens 4, au verset 16 à 17. Regardez ce qu'il nous dit ici. On va commencer au verset 15. Il dit: Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc, il parle ici de la trompette. Il parle au son de la trompette, le Seigneur rassemble ceux qui sont déjà morts, qui sont dans la tombe. Et ceux qui sont vivants, on est rassemblés pour être enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Puis dans 1 Corinthiens 15, il nous parle de la dernière trompette. Donc, il y en a qui pensent que la dernière trompette, il l'associe avec la septième trompette de l'Apocalypse. Donc, ils mettent l'enlèvement de l'Église à la fin de la tribulation, la septième trompette. Mais ce n'est pas les mêmes trompettes. Ici, qu'il est question, ce n'est pas les trompettes qui annoncent le jugement, parce que les trompettes aussi dans l'Apocalypse, ils annoncent des jugements. C'est des jugements sur les habitants de la terre. C'est des jugements, comme on a vu quand on a regardé l'Apocalypse, ces jugements-là sont sur les habitants de la terre. Mais la dernière trompette ici, si on se réfère quand ils rassemblaient le peuple, eh bien, la dernière trompette, elle voulait dire que tout le peuple étaient rassemblés. Puis c'est ça qu'il y en a qui parlent d'un enlèvement partiel de l'Église, mais c'est toute l'Église qui va être enlevée. La dernière trompette mentionne que c'est comme quand la dernière trompette avait sonné en Israël, c'est que le peuple d'Israël était maintenant rassemblé pour prendre leur marche. Puis nous autres, on va être appelés aussi par la trompette toute son Église, tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ, soit qu'ils soient morts et au tombeau, ou soit qu'ils soient vivants, nous qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, on va tous être ensemble enlevés. Il n'y en manquera pas un, le Seigneur connaît les siens, et ils vont tous être enlevés à la rencontre du Seigneur sur la nuée. Donc, mais dans le rassemblement d'Israël, la dernière trompette, c'est ça, voulait dire que tout le peuple était convoqué. On a parlé de la première trompette Juda, la deuxième trompette Ruben, la troisième, la quatrième, c'était Éphraïm. La troisième, c'était les sacrificateurs le tabernacle. Puis ensuite de ça, c'était Dan, la cinquième trompette, c'était Dan. Donc tout le peuple était rassemblé, tout le peuple partait. Puis c'est ça que ça veut dire aussi pour nous aussi, donc on est tous enlevés ensemble. Mais comme on en a dit tantôt, le thème aussi de la trompette est utilisé aussi pour la parole qui est exercée dans l'assemblée. Puis Paul, c'est pour ça que dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, Paul corrige parce qu'il y avait une mauvaise utilisation du langage dans la parole qui était. On voit quand on lit tout le chapitre 14, puis qu'on voit qu'il y a des questions rhétoriques que Paul amène comme il dit. Si tu parles en langue, tu t'édifies toi-même, mais celui qui prophétise édifie l'Église. Puis il montre qu'il n'y a aucun des dons qui sont pour soi-même. Tous les dons qu'on voit, les dons de l'esprit, ce n'est pas pour moi-même. C'est sûr qu'on en profite dans un certain sens par le retour, mais le don est pour l'utilité commune, comme Paul dit dans 1 Corinthiens 14. Les dons sont pour, dans 1 Corinthiens 12, pardon, les dons sont pour l'utilité commune. Il n'y a pas de don qui est pour soi-même, mais parce que c'est pour le service, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour ça que Paul il dit. Tu t'édifies toi-même, tandis que celui qui prophétise, lui, édifie l'Église. C'est ça qu'on devrait toujours rechercher pour l'édification commune. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, 8, il dit, « Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? » Et de même, si vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites car vous parlerez en l'air? Parler en l'air, ça veut dire que c'est inutile. Vous prenez du temps pour parler, puis ça n'amène rien. Ça n'accomplit rien pour le rassemblement envers le Seigneur Jésus-Christ, pour l'adoration, puis aussi envers le peuple pour l'édification, puis aussi envers les gens du monde pour leur prêcher l'Évangile. Donc, on sait que Paul, c'est une correction. Il faut toujours regarder 1 Corinthiens 14. Comme une correction, il y a même des gens qui nous disent qu'il y a deux dons des langues dans le Nouveau Testament. Non, il n'y a pas deux dons des langues. Il y a un seul don des langues qu'on voit dans Actes au chapitre 2. On le voit dans le chapitre 9 des Actes, puis dans le chapitre 10, le chapitre 19, le chapitre 10, puis le chapitre 19. Donc, Actes 2, Actes 10 et Actes 19 qu'on voit que le parler en langue, puis c'était toujours le même. C'était des langues connues, des langues qui étaient comprises par les gens qui les entendaient. Mais dans 1 Corinthiens 14, il faut se souvenir toujours que Paul corrige une situation. Puis de la façon qu'il parle, c'est comme s'il utilise leur façon de faire pour leur montrer la vanité de cette façon de faire. Que tu parles en l'air. Donc, quand il dit, je parle en langue plus que vous tous, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence que 10 000 en langue. Donc, c'est toutes des façons de parler qui dit que la façon qu'ils utilisaient le don des langues était inutile, qui n'avait pas de signification. Puis, c'est pour ça qu'il leur disait, si je viens à vous, vous parlez en langue, vous allez dire, pourquoi qu'il est venu? Il nous a rien dit, on n'a rien compris de ce qu'il disait. Puis, je sais pas. Ça m'est arrivé une fois d'être dans une assemblée, puis tout d'un coup, on était dans une assemblée francophone, puis il y en a un qui s'est levé, puis il a prié en anglais quand personne parlait l'anglais. Fait que tout le monde est resté comme confus parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il avait dit. Alors, j'ai traduit qu'est-ce qu'il avait dit. Ah, là, tout le monde a dit Amen. Mais faut, avec l'utilisation de la langue dans l'assemblée, ben, il faut qu'on accomplisse quelque chose. Il faut que on communique un rassemblement autour du Seigneur, un rassemblement pour l'adoration, pour l'édification, puis aussi pour le témoignage au dehors. Donc, c'est une correction puis, que Paul donnait ici, afin qu'il dit c'était pour la communication, puis c'était pour l'édification de l'Église. Si on va dans 1 Corinthiens 14 au verset 25, c'est ça que Paul leur dit. 1 Corinthiens 14, au verset 25, Paul leur dit ici les secrets de son cœur. Okay, peut-être on va aller au verset 23. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il entre de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Et donc, c'est vraiment des choses comme la rhétorique que Paul parle ici, là. Si quelqu'un rentre et vous parlez tous en langue, ils comprendront pas, il n'y aura pas de communication, il n'y aura pas la communication qui sont perdues devant Dieu. Mais si tous prophétisent, les secrets de son cœur vont être révélés. Il va comprendre le message. Puis ça arrive souvent quand un inconverti, des fois, vient dans une réunion d'assemblée, puis qu'on prêche l'Évangile, puis la personne va se sentir vraiment visée, comme si celui qui parle connaissait sa vie. mais c'est parce que c'est le Seigneur qui parle à travers lui. Puis il est touché, les secrets de son cœur sont révélés, puis il va tomber sur sa face et dire que vraiment Dieu est au milieu d'eux. Souvent, quand les gens sont sauvés, ce qu'ils vont dire, hein, ils vont dire le message, comment ça qu'il me connaissait, comment ça qu'il me parlait comme ça. Mais c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi. Donc, quand on parle dans l'assemblée, c'est pas pour dire des choses futiles. Faut faire attention. Vous savez, des fois, on peut se mettre à dire des choses qui n'ont pas de signification, qui n'ont pas de but. Le temps est précieux quand on est rassemblé. Il faut pas dire des choses en l'air. Il faut pas dire des choses qui n'ont pas de signification, qui n'ont pas de résultat spirituel pour toute l'assemblée. Donc, faut faire attention pour pas dire des choses futiles. Il faut pas gaspiller le temps. Mais ça, c'est important. On est rendu à 52. Je vais m'arrêter là, puis on va continuer. Comme j'ai dit tantôt, on n'aura pas de rencontre le jour de Noël, qui est le 25, lundi prochain. On n'aura pas de rencontre le premier de l'an, le jour de l'an, qui est lundi. Mais le 8 de janvier, on va revenir avec, on continuera, Seigneur voulant, à moins qu'on soit parti pour aller à la rencontre du Seigneur ou qu'il arrive quelque chose d'autre. Mais on va continuer avec notre étude sur les trompettes. On va revenir au sujet du rassemblement, quand ils vont rassembler. Puis, le Seigneur va nous montrer ces choses-là. Ça fait que je m'arrête là pour le moment. Je vous donne l'opportunité de reprendre votre micro et de pouvoir, si vous avez des choses à partager ou des questions, on va passer un temps jusqu'à 8 heures à votre heure. Ouais. C'est que je m'arrête.
J'aurais une question encore, Gérald.
OK.
Concernant Ézéchiel 37, les os qui reprennent vie, c'est pour les Juifs qui sont morts depuis quand?
Mais ils sont pas morts.
Sont pas morts.
Non, c'est Israël, ils sont dans un état de mort. Mais
Ah.
quand ils vont rassembler Israël avec les trompettes, ça va être Israël qui sont vivants à ce moment-là sur la terre. Okay? C'est eux qui vont rassembler, mais c'est parce qu'ils sont comme en état de mort, sont morts spirituellement.
OK.
Okay?
C'est bon. Merci.
Ceux qui sont morts présentement, ceux qui sont morts avant, ben, il y a ceux qui sont sauvés parce qu'il y a ceux qui sont perdus. Ceux qui sont perdus, ils vont ressusciter au grand trône blanc pour aller dans les temps de feu. Ceux qui sont sauvés, ben, ils vont être avec le Seigneur. Mais ça parle du rassemblement à la fin, c'est le rassemblement du peuple vivant, comme le jugement des nations va être à la fin, c'est les nations vivantes. Ceux qui sont morts, les sauvés vont être avec le Seigneur. Ceux qui sont pas sauvés vont être jetés dans les temps de feu au grand trône blanc, ressuscités, puis jetés dans les temps de feu.
Merci.
C'est pour ça que le Seigneur nous dit que les chrétiens dorment.
Ouais, c'est ça,
Dans
ouais.
un sens.
Ouais, c'est ça,
It's
Ça passe pas.
Ouais.
Merci, Gérald, de l'étude, là.
OK, Seigneur te bénisse, Steve.
Mal entendu?
Ben, ah, OK, c'est.
C'est
Attends, ah, c'est pas. Attends, tu sais, c'est qui a parlé?
Cordelia.
C'est Cordelia. OK, salut Cordelia. Bienvenue.
Oui, merci de l'étude.
OK.
C'est très
Cordelia.
bien. Tous les gens.
Ouais. Cordelia est au Nouveau-Brunswick. Moi, Cordelia, on est au Nouveau-Brunswick.
Oui.
On est content que tu sois là,
Très belle
Cordelia.
étude, tout à fait.
OK.
Merci beaucoup.
Seigneur de bénisse. Je ne suis pas
Oui,
capable
tout et tout.
de mettre le son. Qu'est-ce que Steve dit qu'il n'est pas capable
Tu
de
me
mettre
vois
son.
pas, peut-être.
Non, je ne te vois pas, non. OK. J'allais essayer de.
Ah, oui, c'est bon.
OK, tu
Tu
l'as là? OK.
m'entends?
Ouais, là, je t'entends donc.
Oui. Alors, je cliquais, mais je n'étais pas à avoir le son.
OK.
Moi, j'aurais une question.
OK.
Dans le fond, le Nissan, c'est le premier mois de l'année religieuse.
Oui, c'est ça. La nouvelle année
Et.
pour la nouvelle vie.
OK, qui équivaut à avril environ.
Ouais. Ouais, la table de la paroisse de ce temps-là. Mais tu vois, sur la carte que j'ai envoyée, on a tous les mois, là. Ils sont tous nommés.
Ouais.
Ouais.
Et le premier civil
C'est
de
Sylvestre.
l'année civile?
C'est Tisserie où il y a deux noms là, sur la carte. Je n'ai pas la carte avec moi, là.
Je vais
Mais
regarder, c'est bon.
ouais.
Merci.
Ouais.
En tout cas, avec la guerre qui se passe présentement entre Israël et le Hamas, on sait qu'Israël ne sera pas éliminé certain, selon la parole de Dieu, même si ça va être. C'est vraiment difficile d'éliminer le Hamas parce qu'il semblerait que les têtes dirigeantes, ils sont même pas dans la bande de Gaza. Ils sont dans un pays arabe.
OK.
Ils sont difficiles à trouver, finalement.
Oui, c'est ça.
Mais Israël va continuer, puis comme c'est prophétisé, ils vont subsister.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, on essaie de les détruire parce que quand tu questionnes, ben, quand tu questionnes les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant la Palestine occupée? Et ils disent tous que c'est toute la Palestine. Donc, ils ne veulent pas deux États. Ils veulent vraiment éliminer les Juifs.
Ouais, c'est ça. En train de chercher la septième trompette dans l'Apocalypse. Je l'ai trouvée tantôt, mais là, je ne la trouve plus.
OK.
Peux-tu me dire à quel endroit, là?
Dans la septième trompette, un petit peu, on l'a. Sauf que. Je pense que c'est au chapitre 13, non? La bête. Ah non, la bête qui monte la terre.
Ah,
OK.
c'est la bête.
Un petit peu, le second malheur est passé, le troisième. Le septième ange sonna de la trompette, c'est 11-15.
Ah, c'est 11, 15. Ah, c'est super que ça.
Ouais.
OK. Fait
Parce que
qu'on
c'est
voit
quand.
qu'avec les trompettes, c'est solennel aussi, quand justement 11, 15, c'est mentionné. Le septième ange sonna de la trompette, et lui dans le ciel de fortes voix qui disait: Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est un événement vraiment, vraiment important,
Oui,
primordial. Comme
mais
l'enlèvement.
même au début, quand Jean il a vu le Seigneur, il a entendu une trompette derrière lui. Puis vous savez, quand tu as une trompette on dirait que ça nous fait frémir là, quand on entend le son d'une trompette en arrière de nous autres. Puis là, il s'est retourné pour voir, puis là, il voyait le Seigneur. Là. Ça a un son strident.
Alors, la septième trompette de l'Apocalypse, c'est pour le peuple d'Israël qui va être.
Ben c'est pour les aussi c'est le jugement qui vient sur les nations.
Ouais, c'est ça.
Israël, à travers ça, ben il va y avoir les deux tiers d'Israël. On verra ça, il y a les deux tiers d'Israël qui vont périr dans la tribulation. Puis il va y en avoir un tiers qui vont être restaurés. Si tout Israël sera sauvé, c'est le tiers qui va rester. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est qu'on est arrivé à 8 heures, donc on va peut-être avoir un mot de prière pour terminer. Puis s'il y en a qui veulent continuer de discuter, on pourra en discuter. Sinon, ceux qui doivent partir pourront partir. Seigneur notre Dieu, on te remercie encore une fois de ta toute-puissance, notre Dieu, pour faire des choses grandes et merveilleuses. Seigneur, on sait que ton peuple d'Israël, tu as fait des promesses, tu vas les rassembler, Seigneur, la fête des trompettes va arriver après que l'Église va être enlevée. Seigneur, tu veux rassembler ton peuple pour parler à leur cœur. On te remercie pour ça, Seigneur. Pour ça que tu vas faire des choses grandes et merveilleuses, comme ces eaux qui étaient desséchées, tu vas les faire revivre, Seigneur, et même tu vas leur mettre un esprit en eux pour qu'ils puissent te connaître. On te remercie pour tout cela, Seigneur. On prie pour chacun qui sont connectés, Seigneur. On te demande de bénir chacun. On pense à ce temps qui vient. Où on va avoir des rassemblements en famille, Seigneur. On te demande de bénir, qu'on puisse avoir l'opportunité, Seigneur, de témoigner de ton nom, de témoigner de ta grandeur, des gens qui fêtent le Noël, mais ne réalisent pas pourquoi le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. On te remercie pour ça, Seigneur. On te rend grâce. Prends soin de chacun durant ce temps de vacances et qu'on puisse se retrouver selon ta volonté en janvier pour continuer notre étude. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.